Hugues Léger, on a reçu nos gestionnaires de médias sociaux à Sur la ligne un peu plus tôt dans cette émission. Et là, on reçoit un membre de Court Magazine et on a annoncé un partenariat avec Court il n'y a pas si longtemps, en fait, au début de la semaine. Je veux que tu nous parles d'abord du partenariat et que tu nous présentes notre invité qui est avec nous.
Oui, ben vous savez, on cherche toujours le meilleur contenu tennis pour nos fans, pour notre audience. Et je suivais le travail de Courts Mag depuis assez longtemps. Et c'est pour moi le plus beau magazine de tennis au monde en ce moment, qui n'était pas distribué au Québec. Donc, j'ai parlé avec l'éditeur en chef et le fondateur, là, qui est Laurent Valérie Pingen. Et on a fait une entente qui vient toucher et Sur la ligne, le podcast officiel de la Meilleure Banque nationale, et Tennis Montréal aussi. Donc, on voulait entrer là, dans ce secteur-là que j'appellerais la culture tennis, qui n'est pas très développée, en fait, ici, avec des histoires de fond, avec des belles photographies, avec du contenu qui est original aussi. Donc, cette association-là commence. Ça va prendre plusieurs formes. Notamment, le podcast sera sur la plateforme donc, de Courts Mag. On est bien content d'avoir une autre plateforme qui nous héberge. Un meilleur accès au marché européen aussi. On sait qu'on performe assez bien en France déjà, on était souvent top 30, top 25 avec le podcast en France. Et ça va nous aider encore à avoir une portée plus grande du côté européen, ou au moins Europe de l'Ouest. Et moi, je trouvais qu'il y avait un vide sur le marché québécois depuis que Tennis Mag est arrêté. Donc Tennis Mag était le magazine de la Fédération québécoise de Tennis Québec. Durant la pandémie, est arrêté. Puis je me dis, bon, les gens, le tennis est en croissance. Les fans de tennis veulent du contenu. Et pourquoi pas faire une association qui combinerait les plateformes numériques, parce que les articles sont en numérique, évidemment, sur toutes les plateformes, mais des vrais passionnés aiment avoir un bel objet entre les mains qui parle de ce qu'ils aiment. Donc, le tennis, pour aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Et avec un magazine comme Court, qui a des photos exceptionnelles, on a commencé, durant Wimbledon, à publier des photos en direct chaque jour, des nouvelles photos chaque jour. Et ça, c'est un élément de contenu au niveau mondial qu'on n'avait pas. On avait beaucoup de contenu local, on suit les joueurs et tout ça, mais avoir du contenu qui parle de Federer, de Nadal, d'Alcaraz, avec des belles photos de Wimbledon en direct, ben ça nous amène à un autre niveau de contenu pour les fans de tennis canadien, québécois et surtout montréalais. Donc voilà pour l'association avec Courts Mag. Il y aura des associations de contenu aussi, on peut faire du contenu pour eux. Moi, j'ai envie que Sarah Jade, qui était là, travaille aussi au niveau des photos. Avoir un angle un peu plus canadien pour Courts Mag aussi. Bon, évidemment, avec toutes nos vedettes locales, Félix, Leila, Bianca et tous les autres. Et pourquoi pas des trucs un peu plus pointus comme Alexis Galarneau qu'on suit depuis le début ou Gabriel Diallo. Donc voilà, ça prend plusieurs formes, tant au niveau contenu qu'au niveau diffusion. Et là, ben, je parlais avec le fondateur, Laurent. Il dit, écoute, il faut que tu parles à Bastien qui va être sur place. Et Bastien travaille pour l'équipe de contenu de Tennis Canada durant le tournoi. Et on est très content de l'accueillir. Salut Bastien.
Merci. Salut, merci pour l'invitation.
Merci de te joindre à nous. Et j'ai vu ton article sur Alcaraz dans le plus récent numéro, donc qui est en anglais. Donc, Court va être en français et en anglais. Évidemment, le US Open s'en vient. C'est un bon timing pour aller avec un numéro en anglais. Je crois que c'est le numéro 4 en anglais. Et un très bel article sur Carlos Alcaraz, Everything, Everywhere, All at Once, inspiré par le film du même nom. Parle-nous un peu de ta réflexion sur Alcaraz et qu'est-ce qu'il représente pour le tennis aujourd'hui. Puis voilà.
D'abord, un petit mot sur Court Magazine. Comme tu le disais, c'est un très bel objet, ouais, avec des très belles photographies. Avant d'être un contributeur, j'étais un lecteur assidu de ce magazine. Et puis en début d'année, j'ai contacté Laurent pour lui demander de contribuer au magazine. Il a accepté et j'ai pu contribuer donc au numéro en français et en anglais. Et pour celui en anglais, j'ai donc écrit cet article sur Carlos Alcaraz, qui est donc numéro 1 mondial et aussi le joueur qui me fascine le plus à l'heure actuelle. Je l'ai intitulé, comme tu le disais, Everything Everywhere All at Once, parce que, comme le disait Djokovic après la finale de Wimbledon, il a un petit peu pris le meilleur du Big Three,
exact,
meilleur de Federer, meilleur de Nadal, meilleur de Djokovic, et il a beau avoir 20 ans, il a un jeu déjà si complet, si infaillible, que voilà, ça me fascine. C'est comme s'il avait été créé en laboratoire, et voilà, ça m'a tellement inspiré que j'ai écrit une sorte d'essai sur lui. Exact.
John McEnroe dit que c'est le meilleur joueur de 20 ans qu'il a vu de sa vie. Alors, il a dit, en bas de 20 ans, c'est Becker. Becker a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui a gagné Wimbledon deux fois durant cette période, mais il dit Alcaraz, pour 20 ans, c'est le meilleur joueur qu'il a vu, devant le Big Three aussi. Tu parles beaucoup de la relation avec Juan Carlos Ferrero. Moi, ça me fascine vraiment, cette relation. Comment Ferrero a pu créer ce monstre du tennis, et je le dis de façon positive, évidemment. Et moi aussi, je vois un joueur extrêmement complet, comme je n'ai jamais vu à 20 ans, et je suis le tennis depuis assez longtemps. Il peut tout faire à 20 ans. Des gars comme Federer, Nadal, Djokovic se sont développés au fil des années. Ils avaient souvent une surface où ils dominaient. On pense à Nadal, évidemment, sur terre battue. Mais avant qu'ils puissent gagner sur terre battue, sur gazon, sur dur, ça a pris un certain temps pour les autres. Et lui, tout d'un coup, il peut gagner tout, partout, dès maintenant. Donc, c'est un petit peu le titre de l'article. Mais parle-nous de la relation que Alcaraz a avec Juan Carlos Ferrero et comment Ferrero est arrivé à créer ce monstre du tennis, déjà.
Je pense que Ferrero, c'est un composant essentiel de la réussite d'Alcaraz. Il le coach depuis à peu près 2018-2019.
C'est son projet personnel.
C'est son projet personnel. Et c'est, voilà, c'est la raison pour laquelle Alcaraz est si précoce. Quand on a un ancien numéro 1 mondial, excellent coach de surcroît, qui est dans son équipe, on peut que progresser et le faire de manière humble, de manière travailler acharné. Et voilà, c'est ce qui caractérise Alcaraz. Et comme tu le dis, je ne crois pas avoir vu un jeune homme de 20 ans aussi fort au tennis. Le seul point de comparaison que j'ai vu de mon vivant, c'est Nadal. Mais techniquement, il avait quelques petites lacunes à son âge. Il compensait avec sa compétitivité et son esprit de guerrier. Mais Alcaraz, techniquement, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Même Federer et Djokovic, à leur âge, ils n'étaient pas aussi précoces.
Bastien, et on parle beaucoup du Big Three, les victoires en Grand Chelem, mais moi j'ai dit souvent en ondes que je ne serais pas surpris de voir Carlos Alcaraz battre peut-être même haut la main le nombre de titres de Grand Chelem des Federer, des Nadal et des Djokovic. Est-ce que tu penses la même chose, même si on est un peu tôt pour dire ça, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans une carrière, et des joueurs précoces, on en a vu plein. Je veux dire, tu m'aurais parlé de Leighton Hewitt au début des années 2000, j'aurais dit là, il va en gagner 10, mais c'est quoi? Est-ce que tu penses qu'il peut être un danger pour ces records-là?
Alors, récemment sur Twitter, quelqu'un m'a demandé combien je pensais qu'il finirait sa carrière en termes de Grand Chelem. Et j'ai répondu entre 10 et 30. Donc voilà, c'est une fourchette très grande, mais voilà. On ne sait jamais vraiment, il peut avoir une blessure à un moment, mais en termes de talent pur, pour moi, il n'y a aucune limite. Et en termes de compétition, d'adversaire, pour moi, il est un peu au-dessus de Yannick Sinner et Holger Rune, c'est les deux adversaires de son âge. Et il a déjà un bilan très positif par rapport à la génération d'avant, les Tsitsipas, les Medvedev, les Zverev, etc. Donc... voilà, pour moi, les 10-15 prochaines années, c'est pour lui, à moins qu'il y ait un autre freak qui arrive derrière lui. Comme tu le disais, Leighton Hewitt, il avait pris deux grands chelems avant que Federer arrive et en gagne 20. Donc voilà, on n'est jamais vraiment certain, mais quand on a un joueur aussi fort et aussi bien entouré, les pieds... Je vois aucune limite à son développement et je pense qu'il va battre le record de Nadal du Grand Chelem en carrière le plus tôt. Nadal avait complété le Grand Chelem en carrière à 24 ans. Alcaraz, lui manque juste un Australian Open à Roland-Garros. Ouais. Il a 4 ans pour le faire. Je pense qu'il va le faire d'ici 4 ans.
Bastien, tu as écrit un livre sur le Big Three, tu me disais avant de rentrer en onde. Parle-nous un peu de ce projet-là, s'il te plaît.
J'ai grandi avec le Big Three. J'ai commencé à suivre le tennis en 2003, qui était une année importante dans la carrière de Federer. C'est l'année où il a gagné son premier grand chelem à Wimbledon. Je suis devenu très vite un fan inconditionnel de Federer. Et puis, au fil des années, j'ai appris à découvrir Nadal et Djokovic, leur personnalité, etc. Et voilà, c'était une forme d'aboutissement par rapport à ces 15-20 dernières années de ma vie. J'avais envie de leur rendre hommage. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait en France encore. Je tenais absolument à être le premier, et puis le fait que Federer annonce sa retraite, c'était la fin du Big Three tel qu'on le connaissait. Ouais. Donc voilà, je me suis dit que c'était une belle manière de clore le chapitre. J'ai trouvé une maison d'édition, Hugo Sport, qui m'a suivi dans ce projet, et voilà, le livre est sorti en novembre dernier en France et aussi au Québec, il me semble.
Quel est le titre du livre?
Big Three. D'accord. Tout simplement.
Ça me semble le titre
le bien nommé.
Le bien nommé. Il est préfacé de par Stefanos Tsitsipas, que j'ai connu à la Mouratoglou Academy et qui est d'ailleurs le plus jeune à avoir battu les trois du Big Three. Voilà, j'ai essayé de faire le récit le plus objectif, mais en même temps en mettant un maximum de moi, de mes expériences de suiveur, de fan, et puis ensuite de quelqu'un qui a pu les approcher un petit peu en travaillant dans le tennis.
Bah, tu es belge, si je ne me trompe pas.
Non, français.
Ah, français, ok. Français. Alors, français. Mais dis-moi, là, quel est l'état du tennis français présentement? Parce qu'on est dans une espèce d'air de changement, et c'est une nation de tennis tellement
grande
prestigieuse. Et là, ben, tu sais, il y a encore les Richard Gasquet qui sont là, les Gaël Monfils, qui continuent de relativement bien faire. Mais quand on regarde la génération qui s'en vient, je sais pas, peut-être que je juge trop de l'extérieur, mais j'ai l'impression que ce sera pas une génération à la hauteur des dernières générations qu'on a connues. C'est quoi l'état du tennis français présentement?
Bah, déjà, je pense qu'on a eu une génération exceptionnelle et qu'on s'en est pas vraiment rendu compte. Les Monfils, Tsonga, Simon, Gasquet, ils étaient tous les quatre dans le top 10-15 en même temps.
Les nouveaux mousquetaires. Ouais.
Les nouveaux mousquetaires, ouais. Exactement. Et devant eux, c'était le Big Three, Murray, Del Potro, Berdych, Ferrer, que des joueurs de très bonne qualité. Et voilà, on les a un peu trop pris pour acquis et on se rend compte que la nouvelle génération peine vraiment à venir après eux. Aujourd'hui, on a Arthur Fils et Luca Van Hache, tous les deux 19 ans. Je crois que c'est les deux meilleur joueur de 20 ans, de moins de 20 ans au monde, depuis que Alcaraz et Holger ont plus de 20 ans,
ouais.
Qui, je pense, vont pouvoir faire quelque chose à l'avenir. Je sais pas quel est leur plafond, c'est toujours difficile de savoir, mais en tout cas, il y a une sorte de renouveau du tennis français qui va arriver avec eux. Mais c'est vrai que la génération actuelle, entre 20 et 30 ans, si on met de côté Hugo Humbert qui a eu des bons résultats, c'est vrai que c'est difficile. Et voilà, il faut rendre hommage à ces quatre mousquetaires, à Lucas Pouille aussi qui a eu des résultats. Et voilà.
En gros, ta réponse, on doit s'attacher un peu au passé parce que l'avenir est un peu plus incertain qu'il l'a déjà été.
Je dirais qu'il faut s'attacher au passé et au futur, même si c'est déjà, Arthur Fils est déjà un petit peu dans le présent. Mais c'est vrai que le présent actuel du tennis français est un peu compliqué.
Et en même temps, des fois, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je veux dire, si au Canada, on a un merveilleux exemple avec Milos Raonic que personne n'avait vu venir et qui soudainement a remporté plusieurs titres, a fait une finale de Grand Chelem et s'est établi comme un des bons joueurs de sa génération, mine de rien. Alors des fois, on peut être surpris de joueurs qui sortent de nulle part et qui ont des carrières absolument phénoménales.
C'est vrai.
Parle-nous un peu de ton année de tennis. Est-ce que tu voyages beaucoup sur le circuit? Comment tu vis une année de tennis comme rédacteur?
J'ai plusieurs activités. Je suis à mon compte, freelance.
Oui.
L'un de mes clients, c'est Tennis TV, l'ATP. Oui. Je travaille avec eux sur plusieurs Masters 1000 dans l'année, mais c'est souvent à distance. En fait, je clip les hot shots et les highlights en direct et je les mets sur Twitter, parfois Instagram, pendant ces Masters 1000. Et puis parfois, comme cette semaine, je travaille directement pour les tournois. Je fais ça cette semaine pour Montréal. Je m'occupe des réseaux sociaux avec d'autres gens dans l'équipe contenu de Tennis Canada. J'ai fait la même chose pour le tournoi de Washington la semaine dernière. Et puis j'écris aussi de temps en temps, donc pour Court Magazine, pour d'autres magazines tennis. Et puis l'année dernière, j'avais pris quelques mois off pour écrire le livre sur le Big Three. Puis voilà, j'essaye de faire un maximum d'activités dans le tennis. J'aimerais bien faire aussi, pourquoi pas, un peu de télévision, de commentaires. Essayer de me diversifier un maximum.
Collaborateur à Sur la Ligne?
Pourquoi pas, écoutez. Pourquoi pas?
L'offre, elle est faite.
Ah, c'est sur la
elle
table, est faite. On est là 48 semaines par année, donc on est très ouvert aux collaborations.
Mais sans blague, tu viens nous parler. Oh, oui. Quand tu veux, ça nous fera absolument plaisir. Tu t'exprimes merveilleusement bien. Tu connais visiblement ton tennis. Tu as tous les atouts pour devenir un collaborateur. Et ça nous fera plaisir de te recevoir régulièrement, si tu le souhaites.
Eh bien, plaisir partagé.
Ben, merci.
En tout cas, on suit le travail de Bastien sur toutes les plateformes en ce moment pour Tennis Canada, mais dans Coach Magazine et ATP Tennis TV aussi. Et dans l'entente avec Tennis Montréal, c'est une entente de distribution aussi. Donc, Coach Magazine est disponible sur le site de tennismontréal.qc.ca. Et tous les mois, dans la newsletter, qui est plutôt un magazine qu'une newsletter de Tennis Montréal, on pourra avoir un article de Coach Mag qui sera en vedette sur la newsletter. Et le premier sera celui sur Alcaraz que Bastien a rédigé. Et si vous n'avez pas lu son livre encore, je vous encourage à le trouver. Donc, dans toutes les bonnes librairies et en
ligne.
C'est
ça.
Bastien Fachand, merci infiniment de t'être joint à nous. On te suit une fois de plus sur tes médias sociaux, Court Magazine, même Tennis TV. Tu dis que tu travailles pour eux. Alors, on va suivre ton travail à travers les yeux de Tennis TV également. Merci infiniment, Bastien.